4. 2 heures plus tard.
Je vous laisse avec lui, me dit l'infirmier. A priori, il n'y a aucune raison pour qu'il se montre agressif, mais bon, vous êtes médecin. Vous savez mieux que moi qu'il n'y a pas de règles avec ce type de pathologie.
J'étais au 7e étage du Blackwell Hospital, le fameux Pentagone, devant la porte de la chambre de mon grand-père. Après avoir quitté l'appartement d'Elizabeth Ames, j'avais pris un taxi jusqu'à l'intersection de la 2e avenue et de la 60e. Là, pour le prix d'un simple aller de métro, une cabine de téléphérique m'avait emporté au-dessus de l'East River pour me déposer sur Tramway Plaza, au centre de Roosevelt Island. À pied, j'avais rejoint le bâtiment du Pentagone à la pointe sud de l'île. L'hôpital avait toujours eu une sale réputation. Construit au milieu du 19e siècle, il avait d'abord accueilli les malades atteints de variole que la ville souhaitait mettre en quarantaine. Par la suite, il fut transformé en asile et concentra tous les travers de ce genre d'établissement. Surpopulation, traitement dégradant des malades, expérience psychiatrique aux limites de la légalité. Dès les années 1960, des articles et des livres avaient dénoncé ces actes et plusieurs membres du personnel avaient été traduits en justice. Au fil du temps, les choses s'étaient améliorées, mais l'endroit n'était jamais vraiment parvenu à se débarrasser de son image désastreuse. Depuis que j'avais commencé mes études de médecine, il ne se passait pas une année sans que l'on annonce sa fermeture prochaine. Mais il fallait bien se rendre à l'évidence. Le Pentagone était toujours debout, et c'est entre ces murs que j'espérais trouver mon salut.
« Je dois vous mettre en garde !» dit l'infirmier. « Le bouton d'appel d'urgence de la chambre ne fonctionne pas !»
J'avais du mal à le regarder dans les yeux. Comme Double Face, le personnage de comics, il avait une partie du visage totalement brûlée.
« Donc, au moindre problème, n'hésitez pas à hurler !» continua-t-il. « Comme on est en sous-effectif, c'est pas certain qu'on vous entende, mais c'est le plus sûr moyen de faire peur aux vieux gâteux.
« Vous êtes en train de parler de mon grand-père.
Ah, »« Si on peut plus rigoler !»
maugréa-t-il en haussant les épaules. Double Face ouvrit la porte de la chambre, m'invita à entrer et n'oublia pas de verrouiller derrière lui. C'était une pièce minuscule, une cellule spartiate, meublée d'un lit en ferraille, d'une chaise bancale en plastique et d'une table fixée au sol. Un homme était allongé sur le matelas, le buste redressé, calé contre un oreiller. Un mystérieux vieillard à la barbe argentée et aux cheveux blancs et raides, qui lui descendait jusqu'aux épaules. Immobile, les yeux vitreux, il semblait ailleurs, statufié, absorbé par une rêverie lointaine, une sorte de Gandalf sous psychotrope. « Bonjour, Sullivan, » dis-je en m'avançant vers lui un peu intimidé. « Je m'appelle Arthur Costello. On ne s'est jamais rencontré, mais je suis le fils de votre fils, Frank. Vous êtes donc mon grand-père. »
Pas terrible comme entrée en matière.
Sullivan resta de marbre, ne semblant même pas s'apercevoir de ma présence.
« Jusqu'à très récemment, j'ignorais tout de votre existence, » expliquai-je en m'asseyant près du lit. « J'ignorais que vous étiez encore en vie et que vous étiez soigné ici.
Si je l'avais su, je serais venu vous voir plus tôt. » Mentalement, je calculais son âge en recoupant les informations données par mon père. Si je ne me trompais pas, Sullivan venait d'avoir 70 ans. Derrière les marques du temps et la barbe qui lui mangeait une partie du visage, on devinait des traits réguliers, un front haut, un nez fort mais harmonieux, un menton volontaire. Je l'imaginais sans mal 30 ans plus tôt, tel que je l'avais vu sur des photos de famille. Un fringant chef d'entreprise portant des costumes coupés sur mesure, des chemises au col amidonné, des boutons de manchette et des chapeaux Fedora. Je me souvenais d'une image en particulier. Un cigare à la bouche, les pieds sur sa table de travail dans les bureaux de son agence sur Madison Avenue. Une autre époque. Un autre homme. Je rapprochai la chaise du lit et tentai d'accrocher son regard.
« Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous demander de l'aide. »
Il ne scia pas.
« J'ai hérité de votre phare, 24 Winds Lighthouse. » Et...
Je laissai ma phrase en suspens, guettant, espérant une réaction qui ne vint pas. Je soupirai. J'avais sans doute eu tort de venir. D'abord parce que nous étions des étrangers l'un pour l'autre. Et surtout parce que Sullivan restait muré dans un mutisme profond dont rien ne laissait penser qu'il pourrait sortir un jour. Je me levai et m'avançai vers la fenêtre, regardant à travers les barreaux les nuages cotonneux qui filaient vers Astoria. Malgré la saison, la pièce était glaciale.
J'entendais bien le bruit de l'eau qui circulait dans un radiateur en fonte, mais l'appareil ne diffusait pourtant aucune chaleur. Je retournai m'asseoir et fis une dernière tentative.
Frank m'a raconté que, 4 ans après votre disparition, vous l'aviez contacté pour lui demander de murer une porte métallique qui se trouvait dans la cave.
Le vieillard était toujours immobile, les mains croisées sur le ventre à la manière d'une sculpture funéraire. Je continuai.
Je suis descendu dans la cave, j'ai abattu le mur de briques et j'ai, avec une rapidité féline, Sullivan tendit le bras et m'agrippa à la gorge. Je m'étais laissé surprendre comme un bleu. J'avais baissé ma garde devant sa léthargie et à présent sa poigne de fer se refermait sur mon larynx. La respiration coupée, je le fixais du regard. L'évocation de la porte avait joué comme un électrochoc.
Sous l'effet de la révélation, ses yeux avaient retrouvé un éclat argenté et effrayant.
« Pourquoi as-tu fait ça, petit con ?»
souffla-t-il à mon oreille. Je cherchais à me libérer, mais il accentua sa domination.
Comment pouvait-il avoir une telle force ?
Je sentais ses doigts qui s'enfonçaient, me comprimant l'œsophage. Ce dingue allait m'étouffer.
« Tu as poussé la porte métallique ? Tu es entré dans la pièce ?»
Je fis oui de la tête. Ma réponse le désespéra.
Il relâcha soudain sa prise, et je partis dans une longue toux.
« Vous êtes taré !»
criai-je en me levant de la chaise.
« Peut-être »
acquiesça-t-il.
« Mais toi, tu es sacrément dans la merde, mon gars !»
Il y eut un long moment de silence. Pendant plus d'une minute, nous nous regardâmes tous les deux en chien de faïence. Sullivan s'était métamorphosé. L'air grave et concentré, il donnait l'impression de se réveiller d'un mauvais cauchemar. Comme un voyageur de retour après un très long périple. Le regard vif et affûté, il me détailla des pieds à la tête.
« Comment tu m'as dit que tu t'appelais ?»«
Arthur. Arthur Sullivan Costello. » À l'évocation de mon second prénom, un mince sourire éclaira son visage, y creusant 2 fossettes.
« Et pourquoi tu m'as piqué ma montre, Arthur Sullivan Costello ?»
demanda-t-il en désignant la tanque à mon poignet.
« Vous voulez que je vous la rende ?»
Il me mit la main sur l'épaule.
« Non, mon pote. Crois-moi. » Tu vas en avoir plus besoin que moi. »
Il se leva, fit craquer ses articulations comme s'il se sentait à l'étroit dans son propre corps.
Donc, tu as poussé la porte et à présent, tu te demandes ce qui t'arrive.
Ouais, j'ai plein de questions à vous poser. Il faut que vous...
Il leva la main pour m'interrompre.
On est en quelle année déjà ?
Vous vous foutez de moi ?
Ouais, je te fais marcher. On est le 14 septembre 1993.
Je le vis réfléchir. Avant de renchérir.
Tu fais quoi dans la vie, gamin ?
Je suis médecin, pourquoi ?
Pour rien. Tu travailles dans un hôpital ?
Alors que j'acquiesçais, son cerveau eut l'air de se mettre en branle à une allure extraordinaire, et ses yeux se mirent à briller d'une lueur nouvelle, difficile à interpréter.
T'aurais une cigarette ?
Je ne pense pas que l'on puisse fumer ici, dis-je en pointant le détecteur de fumée.
T'as pas encore compris. Il n'y a rien qui fonctionne dans cette tôle.
Je soupirai, fouillai dans ma poche et lui tendis le briquet et le paquet de cigarettes mentholées que j'avais volé chez Elizabeth Ames.
« C'est quoi cette merde ? »
grimaça-t-il.
« Tu me prends pour une gonzesse ou quoi ? T'as pas des Lucky Strike ?»
Sans attendre ma réponse, il lança un juron, mais finit par allumer une clope dont il prit une longue bouffée.
« Quand as-tu ouvert la porte ? »
demanda-t-il, redevenant soudain sérieux.
En juin 1991.
Donc, il s'agit de ton deuxième voyage. Ton dernier réveil date de quand ?
9 h ce matin. Qu'est-ce que vous appelez voyage, au juste ?
Tu auras toutes les réponses à tes questions, petit. Mais avant, il faut que tu me rendes un service.
Quel genre de service ?
Aide-moi à m'évader de ce trou à rats. Aujourd'hui !
Je secouai la tête. Vous plaisantez ?
Ce n'est ni possible ni souhaitable, Sullivan.
Dis-je avec ce ton assuré de médecin dont j'avais usé tant de fois auparavant.
Il ne serait pas raisonnable dans votre état de...
Il eut un rire goguenard et pointa l'index sur ma poitrine.
Mais tu ne le feras pas pour moi, mon petit. Et tu le feras pour toi. Alors écoute-moi bien, parce qu'on a peu de temps.
Il se pencha à mon oreille et me donna une série d'instructions. Chaque fois que j'ouvrais la bouche pour parler, il me faisait taire en élevant la voix. Il avait à peine terminé lorsque l'alarme du détecteur de fumée se déclencha. Quelques secondes plus tard, Double Face fit irruption dans la pièce.
La vue du mégot et du paquet de cigarettes posé sur la table le mit en colère.
« Ça suffit, monsieur. Il faut que vous partiez maintenant. »
5. Je revins à Manhattan par le téléphérique. Le cerveau en ébullition, mes idées s'embrouillaient. J'étais encore ébahi par la rapidité avec laquelle Sullivan avait mis un plan au point, mais je ne me sentais pas capable de le faire s'évader. Du moins, pas tout seul. Je voulus retirer de l'argent à un distributeur, mais cette fois ma carte fut refusée. Sans doute parce que je ne l'avais plus beaucoup utilisée depuis 2 ans. Je fis le point sur mes maigres ressources. Il me restait $75. Assez pour me payer un billet de train jusqu'à Boston, mais pas grand-chose d'autre. Je regardais ma montre. La matinée touchait à sa fin. Au pas de course, je rejoignis Penn Station et achetai un aller simple. Un coup d'œil au panneau. Il y avait des trains express toutes les 2 heures et le prochain partait à 13h03. Je me ruai sur le quai et parvins à attraper un wagon. Pendant toute la durée du trajet, plusieurs questions agitèrent mon esprit. La première, entêtante. Comment faire pour stopper cette malédiction et recouvrer ma vie d'avant? Une seule et unique solution s'imposa à moi, Sullivan. Dans ce cas, la deuxième question s'avérait un vrai cas de conscience. Avais-je le droit d'aider un patient à s'échapper d'un hôpital psychiatrique? Quelqu'un dont j'ignorais tout de l'état de santé réel? Quelqu'un qui m'avait montré être capable de crises de violence, un être hors de contrôle, susceptible d'agresser des innocents, voire pire. La réponse était claire. Non. La troisième question était, avais-je d'autres choix? Là encore, la réponse était claire.
6. Boston South Station, 16h40. Arrivé à la gare, à peine descendu du train, je courus comme un dératé vers le quartier financier. J'avais peu de temps. Aucune banque du centre-ville n'était ouverte après 17h. Mon agence était située au rez-de-chaussée d'un immeuble moderne qui bordait Faneuil Hall. À l'entrée, je me heurtai à une porte vitrée qu'un vigile venait de verrouiller. Je frappai 3 coups sur la paroi de verre. Il se retourna et me lança un regard agacé. Avec le doigt, je tapotai sur le cadran de ma montre pour lui montrer l'heure. 16h59. Il secoua la tête et d'un coup de menton moqueur désigna l'horloge murale digitale qui marquait 17h01. Je soupirai et balançai un poing rageur contre la porte. Piqué au vif, le vigile hésita un moment à sortir de sa planque, mais prudent préféra alerter un responsable. Coup de bol, la personne qui se présenta devant moi fut Peter Lange, le banquier qui s'occupait des comptes et de l'épargne de tous les membres de la famille. Il me reconnut et vint lui-même m'ouvrir la porte.
« Arthur, ça fait si longtemps qu'on ne vous a plus vu.
J'étais en voyage en Europe, » mentis-je. « J'ai bien conscience de débarquer un peu tard, mais j'ai absolument besoin de votre aide. »«
Entrez donc, je vous en prie. »
Je le remerciais sans me faire aucune illusion. S'il se montrait aussi mielleux et conciliant, c'était surtout parce qu'il était le banquier de mon père. Je suivis Lange dans son bureau, lui expliquai que ma carte de paiement n'était plus active et lui demandai un état de mes finances. Il pianota sur son ordinateur pour lancer l'impression d'un relevé des dernières transactions. Pendant mes 2 années d'absence, les mouvements financiers avaient continué, toujours dans le même sens, malheureusement. Mon loyer, mon assurance et les remboursements de mon prêt étudiant étaient prélevés avec une régularité de métronome. Comme l'hôpital avait arrêté de me verser mon maigre salaire, la banque avait pioché dans mon compte épargne pour compenser mes dépenses, un bas de laine que ma mère m'avait légué avant de mourir, et dans lequel elle avait déposé un pécule de $50 000, dont il ne restait plus aujourd'hui que $9 000.
Je souhaiterais retirer l'intégralité de cette somme.
C'est faisable, grimaça Lange. Mais il va falloir revenir demain et laisser au moins $1 000 sur le compte.
J'insistai, lui racontant que je devais quitter Boston ce soir et que j'avais absolument besoin de cet argent qui m'avait été légué par ma mère. Je n'espérais pas l'émouvoir. Mais le fait est qu'il m'écouta et qu'il essaya d'arranger les choses. Une demi-heure plus tard, il me laissa repartir avec mes $8 000 de cash. Au moment de se séparer, c'est Andouille me gratifia même d'un « toutes mes condoléances » comme si ma mère était morte la semaine dernière. Je pris une mine contrite et m'en allai sans demander mon reste, hélant un taxi pour me rendre à South Dorchester.
7.
Au Massachusetts General Hospital, les internes en médecine urgentiste doivent participer 3 fois par mois à une tournée un peu spéciale. Un camion médicalisé se rend dans les quartiers les plus défavorisés de Boston pour permettre à toutes les populations d'accéder gratuitement à une offre de soins. En théorie, c'est une belle idée. Dans les faits, c'est souvent un cauchemar. Pendant les quelques mois où je participais à l'aventure, notre camion fut régulièrement l'objet de caillassages en règle de la part de membres de gangs, considérant que notre présence gênait leur business. Tour à tour, nous fûmes braqués, agressés, dépouillés, au point que les ambulanciers alertèrent leur syndicat pour exercer leur droit de retrait. Néanmoins, la municipalité tenait à ce projet et continua à le faire vivre sur la base du volontariat. Plusieurs fois, je m'étais donc retrouvé à conduire moi-même le camion que j'allais récupérer dans une zone à la périphérie de la ville qui ressemblait davantage à une fourrière qu'à un garage. C'est à cette époque, si lointaine et si proche, que je repensais en pénétrant dans l'enceinte de Fitzpatrick's Auto Repair, l'un des plus grands ateliers de réparation de la ville, spécialisé dans l'entretien mécanique des véhicules funéraires, des bus scolaires et des ambulances. Une forte odeur de cambouis, de gasoil et de gomme de pneus régnait dans le vaste atelier. Dès que je mis un pied dans le local, un boule terrier blanc et agressif courut vers moi, m'accueillant avec des aboiements puissants. Les chiens m'avaient toujours effrayé. Celui-là me terrifiait et l'animal le sentait. J'essayais de l'ignorer et m'avançais vers le responsable du garage.
« Salut, Danny !»«
Salut, petite tête, ça fait un bail. T'as pas peur de ma Zoria au moins? C'est une gentille fifille, tu sais. »
Un tas de graisse d'1m90 enserré dans une chemise de bûcheron et une salopette crasseuse. Danny Fitzpatrick était encore plus effrayant que sa chienne. Dans son dos, tout le monde le surnommait Jabba le Hutt, mais personne n'avait jamais dû avoir le courage de le lui dire en face.
« Conrad m'envoie chercher une ambulance pour ce soir !»
lançai-je à Danny comme si je l'avais croisé la veille.
« De quoi tu parles? J'ai reçu aucune demande. »«
Conrad va te la faxer !» répondis-je du tac au tac. Oh, « Tu sais ce que c'est? Tournée de dernière minute. Cette nuit, c'est dans les centres sociaux de Mattapan et de Roxbury. Il se peut qu'on ait un ou deux patients à transporter. Mais on veut quelque chose de léger. Petite unité mobile hospitalière. T'as ça en magasin ?»«
J'ai bien un Ford série E, » dit-il en désignant une ambulance d'un coup de menton. « Mais... »
Je me dirigeais vers le van transformé en véhicule de soins d'urgence.
« C'est parfait, ça! Te bille pas pour le fax! Tu le contresignes à ma place quand tu le reçois! Tu l'as déjà fait plusieurs fois !»
C'est alors que Danny interposa sa graisse pour m'interdire l'accès au véhicule.
« Minute, papillon. Ça m'étonnerait beaucoup que je reçoive un fax de Conrad. »
« Et pourquoi ça ?»«
Parce qu'il ne travaille plus à l'hôpital depuis 6 mois. »
Je pris un air outré et tentai le tout pour le tout.
« Écoute, Danny, tu crois que ça me fait plaisir, moi, qu'on m'ait collé cette tournée? Ça fait 2 ans qu'on me foutait la paix avec ça. Je te dis que tu vas recevoir un fax de l'hôpital. Qu'est-ce que tu voudrais que je foute de cette ambulance, sinon? C'est pas la meilleure caisse pour draguer, t'en conviendras. »
Danny Fitzpatrick se gratta la tête. Il fallait que je marque le point sans trop lui laisser le temps de cogiter, quitte à promettre n'importe quoi. Une info que j'avais lue dans le journal remonta à la surface.
« Samedi, les Red Sox jouent contre les Yankees. Viens voir le match à la maison.
Je sais que tu craques sur Véronica.
Elle sera là avec ses copines, Olivia et Patricia, la petite rousse de chirurgie. » Ouais, ces filles-là, quand elles ont bu, elles sont pas farouches, si tu vois ce que je veux dire.
Aussitôt, je m'excusais mentalement auprès de Véronica, tout en me disant que je ne faisais pas ça pour le plaisir, mais pour une bonne cause.
« Ok pour samedi », approuva Danny en me tendant les clés. « Tu crèches où, déjà ?»
5 minutes plus tard, c'est le sourire aux lèvres que je quittais le garage au volant d'une ambulance. Je traversais Dorchester avec l'intention de reprendre la route jusqu'à New York. C'était un quartier vaste et excentré, qui sur des kilomètres déroulait petits immeubles en grès rouge, friches industrielles et palissades recouvertes de graffitis. C'était aussi le Boston que j'aimais, celui du melting pot, des terrains de basket grillagés et des petites boutiques encore dans leur jus. Je m'arrêtais à un feu rouge, allumais la radio, tombais sur une chanson de REM que je n'avais jamais entendue et dont je sifflotais immédiatement le refrain. Même si tout restait à faire, peu à peu, mon plan se mettait en place. Sur les ondes, un nouveau titre débuta alors que le feu se prolongeait. Prenant mon mal en patience, je regardais autour de moi. À ma gauche, un panneau indicateur avait été tagué. 3 grands Z à la peinture rouge qui tentaient de masquer la direction, le cimetière de Forest Hills, comme pour la conjurer. Je connaissais cet endroit. C'était là qu'étaient enterrées ma mère et ma grand-mère paternelle. Le feu passa au vert, mais je restais immobile malgré le coup de klaxon de la voiture qui me suivait. Toutes mes condoléances. L'évidence venait de me frapper en plein cœur. La phrase de mon banquier ne concernait pas la mort de ma mère.
mais celle de mon père.